Europe Matin Weekend.
Ah, bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus. On prend un petit café. On est le dimanche 3 octobre. Tenez, le dicton du jour. En octobre, si tu es prudent, achète graines et vêtements en clair. On va pas vers le meilleur. Soyez prévoyants. Voilà, ça c'est fait. On parle même pas du temps aujourd'hui, hein, de la pluie, beaucoup de pluie par endroit. On va en parler dans un instant avec Valérie Darmon. C'est pas grave, on est bien, on prend un café, on est là, on est tous ensemble, on se réchauffe, on vous informe, on vous accompagne avec, sachez-le, beaucoup de plaisir. Merci d'écouter Europe 1. Il est 6h. Bon réveil.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
Et voici toutes les infos que l'on va développer dans cette première édition. C'est un rapport très attendu sur la pédophilie dans l'église. Il sera dévoilé mardi, mais on vous donne déjà ce matin les chiffres effrayants. C'est le premier week-end de passe sanitaire pour les adolescents. Reportage à suivre. C'est la course mythique du jour, le Paris-Roubaix. Départ à 11h, l'enfer du Nord qui va bien porter son nom ce dimanche. Vos rendez-vous de la prochaine demi-heure, 6h12. Les pronostics de Thierry Léger pour le quintet du jour à Longchamp. C'est la 100e édition du prix de l'Arc de Triomphe. Puis la rencontre du dimanche, l'actrice Bérénice Bejo avec Naïma Benchemann. 6h23, on va partir en balade avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. D'abord dans l'Allier, dans l'embouteillage de la Palisse. Et puis on dégustera du Beaufort dans les Alpes. Merci. D'abord, bien sûr, c'est la tendance météo. Bonjour Valérie Darmon.
Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Je vais très bien malgré les nouvelles que je vous annonce qui ne sont pas terribles, on le sait. Hein. On le suit depuis hier, cet événement exceptionnel de fortes pluies dans l'Ouest. On a toujours 22 départements en vigilance orange pluie inondation, du Morbihan à l'Oise, ceux des Cévennes, du Gard au Rhône. Parallèlement, le vent qui souffle très fort, entre 70 et 90 km/h entre Rhône et Saône, jusqu'à 110 en montagne. Je vous donne les records de pluie à la fin du journal. Ces vigilances qui vont évoluer, à mon avis, dans les 10 minutes à venir.
Allez, on se retrouve dans 8 minutes. À tout à l'heure.
Europe 1.
Une nuit culturelle et blanche à Paris sous la pluie, de la pluie sur une large partie ouest de la France, on le disait à l'instant. Beaucoup de pluie cette nuit sur la pointe Bretagne et la Loire-Atlantique qui reste donc en alerte rouge, jusqu'à 100 mm de pluie à Nantes. C'est un phénomène extrêmement rare, inhabituel sur l'Atlantique. Explication de Jérôme Lecoux, prévisionniste à Météo France.
On arrive donc à l'automne. Les vigilances rouges sont souvent d'actualité à cette période de l'année. C'est plus souvent, bien entendu, sur la partie méditerranéenne. C'est plus inhabituel, bien entendu, sur l'Atlantique. C'est des départements, si vous voulez, qui ne sont pas habitués à avoir des quantités de pluie aussi généralisées sur un temps, au final, assez court. Puisque nos zones de plaine du nord-ouest, généralement, quand il y a un bon arrosage, c'est de l'ordre de 20 à 40 mm. 100 à 110 mm de façon assez généralisée, c'est quelque chose, en fait, quand on regarde dans l'historique, sur 12 heures, on n'a pas d'équivalent. Dans nos archives, on n'a pas des quantités de pluie si marquées sur un temps aussi court. Donc c'est un phénomène inédit, d'où la vigilance rouge.
Jérôme, le coup de Météo France avec Marion Gauthier. C'est le rapport qui va faire beaucoup de bruit, celui sur la pédophilie dans l'église. Il sera dévoilé officiellement mardi prochain. On va connaître pour la première fois le nombre de mineurs victimes de prêtres ou de religieux en France depuis les années 50. Virginie Riva, vous pouvez nous donner dès ce matin sur Europe 1 un ordre de grandeur et c'est vertigineux.
Oui, le nombre de victimes serait largement au-dessus de 100 000 selon plusieurs sources au sein du gouvernement et de la commission. Le chiffre précis est encore tenu secret et la commission d'enquête elle-même dément. Mais on peut parler de potentielle déflagration pour l'Église et la société française. C'est au moins 10 fois plus que lors du dernier rapport d'État de Jean-Marc Sauvé au printemps dernier. Il parlait alors de 10 000 victimes. Tout repose sur une enquête IFOP réalisée auprès de 28 000 personnes, généralisée ensuite à l'ensemble de la population française par l'INSERM. Autre enseignement de ces travaux, c'est dans la famille que les violences sexuelles sur mineurs sont les plus importantes en France, loin devant l'Église, nous confirme un membre de la commission. Connaître l'ampleur du phénomène était l'une des missions de la commission d'enquête mandatée par l'Église, mais totalement indépendante. Elle a travaillé durant 2 ans et demi et rendra un rapport de plus de 1300 pages mardi. Monseigneur de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, a déjà parlé d'un phénomène insoupçonné dans son ampleur, qui allait forcément amener l'Église à réagir.
Virginie Riva, spécialiste des questions de religion pour Europe 1. Ils étaient près de 48 000 manifestants hier en France contre le pass sanitaire. Plus de 5 000 personnes à Paris pour le 12e week-end consécutif. Et cela alors que c'est le premier week-end de pass sanitaire obligatoire pour les 12-17 ans. Comment les ados vivent-ils à cela? Thibaut Hu est allé à leur rencontre devant un cinéma de la capitale.
Passe sanitaire à la main, souvent déjà installé sur leur téléphone, des dizaines de jeunes font la queue pour rentrer en salle. Alizée, 14 ans, se prépare à présenter son QR code, presque un peu stressée.
Ça fait 3 semaines que je suis vaccinée et là, pour la première fois, je vais aller au cinéma avec mon passe sanitaire. Avec mes parents, on avait beaucoup parlé. On a décidé que je fasse le vaccin. Puis en même temps, avec toutes les contraintes qui sont mises en œuvre et tout le tralala qui se passe ces temps-ci, c'était mieux de le faire assez vite si possible.
Pauline a 13 ans, elle n'a pas de téléphone, alors elle présente son passe sanitaire sur papier. Pour elle, c'est surtout une question d'habitude.
J'ai hâte que ce soit fini, parce que même si c'est pas très contraignant, on se dit toujours « Ah, il faut pas que j'oublie mon passe sanitaire ». Mais bon, après, ça me dérange pas, donc voilà, je me dis... Tant que ça peut faire arrêter le Covid, go.
Si presque toute la file est vaccinée, ce n'est pas le cas de Maxime, 15 ans. Il s'est organisé autrement.
Pour aller au cinéma, je suis allé me faire tester. C'est mes parents qui ne veulent pas, donc je ne choisis pas.
71% des 12-17 ans ont reçu au moins une dose, soit 3,2 millions d'adolescents.
Reportage signé Thibaut Hu. On le sait, on l'a souvent dit, le Covid a mis à mal la santé des Français. 4 personnes sur 10 estiment que leur dépression s'est aggravée à la suite du premier confinement. Conséquence, eh bien, un numéro national pour la prévention du suicide a été lancé le 31-14. Et c'est le CHU de Lille qui a été désigné pour être le pôle national en charge du développement de ce numéro d'appel gratuit. Un numéro national et plusieurs centres d'écoute partout en France. Reportage dans les Hauts-de-France, signé Lionel Gougelot.
Si vous m'appelez aujourd'hui, c'est que vous avez besoin d'aide.
Tous les répondants du 31-14 sont des soignants qui ont été spécialement formés à l'écoute.
Sur la durée, il faudra peut-être mettre en place un suivi. Il faut que vous soyez accompagné. Après, il y a aussi des associations qui peuvent être à votre écoute et qui sont spécialisées.
Un accueil, des conseils, des informations aussi sur les dispositifs d'aide aux personnes aux tendances suicidaires ou en détresse. Pierre Thomas, coordonnateur national de la prévention du suicide.
C'est très difficile d'en parler à un proche, d'en parler à son frère, sa sœur, ses parents, ses enfants, etc. C'est un sujet qu'on n'ose pas aborder et lorsqu'on essaie de l'aborder, parfois il est balayé du revers de la main parce que c'est une situation très difficile, très tendue. Alors que là, ce numéro permet de pouvoir désamorcer des situations de crise.
Une aide essentielle également pour les entourages endeuillés par un suicide. Charles-Édouard Notre-Dame, coordonnateur du 31-14.
Il y a des études plus récentes qui ont montré que, effectivement, de manière directe ou indirecte, lorsqu'une personne se suicide, c'est 130 personnes de son entourage qui sont affectées. Et c'est très difficile parce que le deuil après suicide est un deuil qui est particulièrement douloureux, qui est particulièrement vecteur de culpabilité et il est nécessaire de pouvoir apporter une réponse qui soit adaptée, spécifique.
Le 31-14 est gratuit, confidentiel et accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Voilà, je vous redonne ce numéro d'appel et d'écoute gratuit 31-14. En bref, la mort de l'avocat Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Hier, il avait 69 ans. Alger appelle son ambassadeur en France. Pas d'explication pour le moment, mais une décision qui s'inscrit dans un contexte de tension accrue avec la France. L'Algérie rejette les ingérences dans ses affaires internes. Le sport à présent et le rendez-vous du jour sera cycliste. C'est le Paris-Roubaix, bien sûr, aujourd'hui. Après 2 ans et demi d'absence, départ à 11h de Compiègne. Axel May, la course risque d'être apocalyptique à cause, bien sûr, des conditions météo.
Oui, les fameuses rocos, les reconnaissances cette semaine des secteurs pavés ont alerté les coureurs sur l'état du parcours. Ce Paris-Roubaix version automnale s'annonce humide et glissant. Damien Touzé évolue sous les couleurs d'AG2R Citroën.
Il n'y a pas grand monde qui connaît les pavés mouillés, donc c'est une interrogation pour, je pense, beaucoup de coureurs du peloton. On a tous un peu peur d'arriver sur les pavés qu'on ne connaît pas. Et d'habitude, beaucoup de secteurs, on peut rouler sur les bas-côtés. Là, c'est sûr que ça devient un peu plus compliqué vu que l'herbe est plus haute.
Alain Deloye, directeur sportif au sein de l'équipe nordiste Cofidis, prédit, lui, une course dantesque.
Ça va être compliqué, dangereux. Il risque de ne pas avoir beaucoup de coureurs à l'arrivée, ça c'est sûr. Ouais. Si tout ça se transforme en boue, il faudra accrocher les bretelles, je pense. Pour vous et pour nous, bien sûr, mais pour vous, ça va être un Paris-Roubaix de légende. Ça, c'est clair.
Bref, pour son retour après 2 ans et demi d'absence, ce monument du cyclisme mondial qui est Paris-Roubaix devrait porter, on ne peut mieux, son surnom d'Enfer du Nord.
Axel May qui va nous faire vivre cette course mythique, bien sûr, aujourd'hui. Notez que je recevrai le directeur du Paris-Roubaix, Christian Prudhomme, tout à l'heure à 7h moins le quart sur Europe 1. Le foot, Nice sur la troisième marche du podium grâce à sa victoire contre Brest 2-1 et Strasbourg a ramené un point de Montpellier, un partout. Ce soir, l'affiche du week-end, c'est bien sûr le derby Saint-Étienne-Lyon à suivre en intégrale sur Europe 1 avec Lionel Rousseau. Pas de supporters lyonnais en tribune pour des raisons de sécurité. Les Lyonnais en pleine confiance en ce moment, alors que pour Saint-Étienne, lanterne rouge du championnat, bien ce match arrive au pire moment. Jean-François Pérez.
Des supporters au bord de la crise de nerfs et qui désertent petit à petit les gradins. Des joueurs apathiques, incapables de gagner le moindre match depuis le début de la saison. Un entraîneur de plus en plus impopulaire dans son vestiaire et son propre stade. Les Verts cumulent les handicaps avant ce 123e derby face à Lyon. Mais il en faut plus pour abattre l'expérimenté technicien Claude Puel, droit dans ses crampons.
On passe par des moments qui sont âpres, difficiles. Et dans ces circonstances-là, eh bien, on lâche pas, on se concentre pour être présent, trouver une certaine légèreté pour être bien, pour s'exprimer.
Ce match intervient à un moment crucial de l'histoire stéphanoise. Arrivé il y a 2 ans en sauveur, l'autoritaire Claude Puel ne résisterait peut-être pas à une nouvelle défaite, qui plus est face au rival lyonnais. Et puis, il y a l'avenir de ce monument du patrimoine sportif national, en vente depuis des mois. Les deux présidents, Roland Romeillet et Bernard Caillazot, ne s'accordent pas sur le profil du repreneur souhaité. Français pour Romeillet, le régionaliste. Étranger pour Caillazot, l'homme d'affaires international. En attendant, ce sont les Verts qui trinquent. Fait rarissime, un soir de derby, le stade Geoffroy Guichard n'affichera pas complet.
Jean-François Pérez, le chef des sports d'Europe 1. Un petit mot de tennis, Gaël Monfils va jouer ce matin la finale du tournoi de Sofia face à l'Italien Jannik Sinner. Il a battu hier l'Américain Mark Jahiron en 2-7, 7-5, 6-0. Il nous reste à voir la météo. Il pleut sur Nantes, chantait Barbara. Valérie Darmon, de la pluie toujours intensive sur le nord-ouest.
Non, non, la vigilance rouge vient d'être levée hein, sur la Loire-Atlantique à l'instant. Bonne mais nouvelle. C'est vrai que les cumuls ont atteint les 100 mm à Nantes. Ces pluies qui sont tombées en 24 heures, qui représentent donc l'équivalent d'un mois de pluie comme prévu, qui approche ou qui dépasse les valeurs records pour 24 heures. Record de pluie à Nantes avec d'ailleurs 32 jours de pluie, 98,3 mm dans le Morbihan, à Pleucadeuc, 25 jours de pluie dans le Maine-et-Loire, 37 jours de pluie en Vendée à Noirmoutier, 25 jours de pluie. Donc on le voit, on a approché les records de très très près.
Valérie, comment ça va évoluer aujourd'hui?
Alors on a déjà ces pluies et ces vents qui faiblissent progressivement dans le nord et dans l'ouest, cette perturbation pluvieuse et venteuse qui glisse vers les régions de l'est pour s'étendre de la Nouvelle-Aquitaine à la Lorraine. Ces pluies orageuses qui commencent à se développer aussi entre le nord de l'Hérault et l'Ardèche. On a toujours 22 départements en vigilance orange tout de même, notamment ceux des Cévennes, cet épisode cévenol qui s'installe du Gard et de la Lozère à la Haute-Loire. Ces fortes pluies qui s'étendent de l'Auvergne à la Bourgogne vers le Lyonnais, le bassin stéphanois en toute fin de journée où le vent va souffler très très fort. Vigilance orange d'ailleurs pour la Loire avec des vents très violents annoncés à Saint-Étienne. Et c'est la nuit prochaine que les pluies vont petit à petit s'arrêter dans le sud-est du Languedoc, à l'est du Massif central et à la vallée du Rhône.
Bien sûr, restez prudents. On se retrouve à 6h30. Valérie, à tout à l'heure. Merci. À suivre les pronostics de Thierry Léger, c'est la 100e édition du Prix de l'Arc de Triomphe, les confidences de l'actrice Mérisse Béjot et une balade du dimanche avec Marion Sauveur et Vanessa Zah, direction l'Allier et les Alpes ce matin.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Mais tout de suite, prenez papier et stylo, c'est l'heure des pronostics des courses. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Thierry, c'est un quintet exceptionnel qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, le prix de l'Arc de Triomphe, dont ce sera la 100e édition. Attention, 14 partants et non 15, comme initialement prévu, le numéro 5, Love, ayant déclaré forfait. Il est impératif d'accorder un très large crédit aux deux représentants de l'écurie Godolphin, entraînés à Newmarket par Charlie Appleby, à Dayard, le numéro 10, lauréat sans émotion, le 5 juin du derby d'Epsom, la course qui consacre le meilleur poulain britannique, âgé de 3 ans, et Hurricane Lane, le numéro 11, titulaire de 6 victoires en 7 tentatives, dont l'une obtenue avec la manière l'été dernier à Longchamp, dans le Grand Prix de Paris, sur le même parcours que celui qu'il empruntera cet après-midi. Derrière ces deux priorités, je vous recommande les numéros 4, Tarnawa, volontairement ménagé cette année en vue de cet objectif, 7, Chronogenesis, l'une des meilleures juments japonaises, qui a visiblement les moyens de rivaliser rivalisé avec l'élite des purs sangs européens et 8 Mojo Stars, un poulain dur et tenace, capable d'un coup d'éclat grâce au terrain lourd sur lequel il vaut quelques longueurs de mieux. Enfin, les numéros 15 Snowfall, 13 Alenker et 12 Silly Way sont autant de possibilités pour compléter la combinaison gagnante de ce quintet, agrémenté d'une tirelire de 3 millions d'euros. Mon pronostic, 10, 11, 4, 7, 8, 15, 13 et 12.
3 millions d'euros. Merci beaucoup Thierry Léger.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Allez, une personnalité, un lieu, tous les dimanches matin, elle préside le jury du festival du film britannique de Dinard qui se termine aujourd'hui. Rencontre avec l'actrice Bérénice Bejo, signée Naïma Benchemann.
Bonjour Bérénice Bejo.
Bonjour.
Drôle d'endroit pour une rencontre, nous sommes à Paris devant la Maison de l'Amérique latine, un endroit qui fait écho à votre enfance, vous qui êtes née en Argentine. Vous arrivez en France à l'âge de 3 ans après que vos parents aient fui la dictature militaire.
Oui, c'est ça. Mes parents sont partis d'Argentine quand j'avais 3 ans, pour des raisons politiques. Et ils ont choisi Paris parce que c'est la ville lumière, la ville des cultures, la ville de la liberté d'expression. Et qu'ils avaient envie de croire qu'ils allaient avoir une meilleure vie ici que là-bas, ce qui est certainement vrai. Et qu'ils voulaient nous donner des chances de réussir, ma petite sœur et moi.
C'est votre père hein, qui était un grand cinéphile. C'est lui qui vous a initié, je crois, au cinéma.
Oui, mes parents étaient des cinéphiles, mais c'est vrai que mon papa est quand même, on va dire, le cinéphile de la famille. Et il nous a tous embarqués, ma mère, ma sœur, à regarder des films tous les week-ends, des vieux films italiens, américains, français, anglais. C'est vrai que c'était... Ça fait partie de ma culture, de mon éducation, quoi. Le cinéma, aller au musée, aller voir les films en version originale, surtout ne pas rater le générique de début, lire autant qu'on peut. Voilà, mes parents m'ont donné beaucoup de... m'ont transmis la curiosité, en fait.
On va retracer comme ça quelques moments forts de votre carrière. Après une formation de théâtre et quelques seconds rôles, vous décrochez le premier rôle dans Meilleur Espoir Féminin de Gérard Jugnot, pour lequel vous serez nommée dans la catégorie du même nom au César en l'an 2000.
Papa, je suis comédienne. Je le sais, je le sens.
Lucie, approche. Tu mets plus fort.
Bouge-toi. Tu délires, tu crois quoi? Que j'ai passé ma vie dans ton bled pourri à mettre des rouleaux, à faire des régères genre petites vieilles? Tu crois que ça m'excite ce genre de vie? Une vie de con, oui.
C'est ma vie, je te signale.
C'est bien ce que je te dis.
J'avais d'ailleurs rencontré pas mal de gens. Il y avait, je me souviens de Jean-Pierre Bacri, qui avait eu un mot tout doux pour tout gentil sur moi, sur ma sœur. Nous avait souhaité la bienvenue dans ce métier. Il y avait, j'étais un peu fascinée. J'avais 22 ans, je crois. Et tout d'un coup, de rencontrer comme ça des vedettes. J'étais avec Gérard Jugnot qui me présentait, mais qui était aussi qui me protégeait. Non, les Césars, c'était un peu particulier, c'est-à-dire c'est un moment dont on rêve, et puis une fois qu'on y est, on a vraiment très très peur. Quand on est toute jeune, ça fait vraiment peur, c'est très intimidant. Donc je me souviens que j'avais été très très intimidée. Et voilà, ma sœur était sublime, elle était dans une robe blanche moulante, on aurait dit une vedette américaine des années 50, enfin moi.
Il y a un film charnière, on est en 2005, ou plutôt une rencontre décisive dans votre carrière, mais surtout dans votre existence. Il y a un avant et un après Michel Hazanavicius.
Ah bah oui, de toute manière, j'allais dire, il n'y a rien avant. Si, il y a plein de choses avant, mais il y a la jeune fille, et puis après, il y a la femme, quoi. Il y a des rôles et des rencontres qui vous transforment. Bah, c'est vrai que professionnellement, de toute manière, il y a un avant-après OSS.
Comment est votre blanquette ?
Elle est bonne.
On me dit le plus grand bien des harengs pommes à l'huile.
Le patron vous en apportera un ramequin. Vous vous ferez une idée.
Et puis après OSS, il y a eu d'autres films. Et puis il y a eu des enfants. Et puis il y a eu encore des films. Et encore des projets. Donc bon, c'est une rencontre. Voilà, vous faites dans votre vie, vous avez des moments importants. Et c'est vrai que Michel, c'est un moment important qui perdure dans le temps.
We'll be right back.
King, The Artist, évidemment, au succès mondial. Comment vous avez vécu ce succès ?
Eh bien, j'ai un souvenir de l'avoir plutôt bien vécu, je crois.
Et le César de la meilleure actrice est attribué à Bérénice Bejo dans The Artist.
Je dois vous avouer quelque chose. Je le voulais vraiment. Je le voulais. Je vous ai toutes adoré. Toutes les autres actrices qui sont nominées, mais je le voulais. Je pensais pas que je serais tellement émue, mais... Oh, j'arrive pas à y croire, en fait.
Michel était sur un nuage. Je me souviens que lui, quand on a écrit, réalisé, porté, coproduit, c'était vraiment son bébé. Et donc, je l'ai vécu de l'intérieur, parce que j'ai eu de la chance de le vivre avec Michel. D'ailleurs, j'ai plein de vidéos que j'ai faites au petit déjeuner, le soir, un jour, il faudrait que j'en fasse quelque chose. Mais j'ai tendance à dire souvent, comme je perdais beaucoup, disons que mon ego est resté un peu à sa place. Et du coup, moi, je volais pas au-dessus des nuages. J'étais vraiment là et je regardais avec bonheur tout ce qui se passait et tout ça. Mais j'étais plutôt... je sais pas comment dire. On est un peu dans une situation tellement énorme, parce que vous rencontrez des vedettes américaines, les gens viennent vous serrer la main, vous remercier, vous féliciter. Il y a un truc un petit peu absurde, donc voilà, avec des moments où c'était plus difficile, mais c'était une période très excitante. On voyageait beaucoup, les enfants sont venus à Los Angeles, ma petite elle est née, après elle est venue en promo, donc voilà, c'est une période de vie qui a un beau moment, quoi. C'était un très beau moment.
Cette année, vous êtes la présidente du 32e festival du film britannique de Dinard. Vous êtes une actrice qui avait tourné dans énormément de pays. Vous avez tourné en Italie, vous avez tourné en Argentine. Est-ce que vous voyez un petit peu comme une sorte d'actrice française, trait d'union, un peu ouverte sur le monde, finalement ?
Trait d'union. Et c'est pas mal, ça, j'aime bien. En fait, je réfléchis pas vraiment, mais je sais que pour moi, ça a toujours été très enrichissant de me dire, tiens, il y a un Israélien qui vient de m'appeler, j'ai fait un film avec lui. Après, j'ai fait un film allemand, j'ai fait un film anglais, j'ai fait un film iranien. C'est-à-dire que, oui, c'est une manière d'explorer... Je sais pas, parce qu'en fait un film ça reste un film, un réalisateur, mais tout d'un coup de jouer dans des langues différentes et finalement je suis une actrice comme une autre et je peux apprendre un peu ta langue et venir vers toi, enfin je trouve ça important. Je trouve que s'il y avait un message politique, ce serait celui-là, quoi.
Je rappelle, Bérénice Bejo, que nous sommes devant la Maison de l'Amérique latine à Paris. C'est l'un des endroits qui résonne en vous comme une Madeleine de Proust. Avant de conclure cet entretien, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'il reste d'argentin en vous?
Je suis Bruno Tache de Rousseur, déjà. Ceci dit, vous êtes Bruno Tache de Rousseur. Oui, je pense qu'il me reste... j'ai tellement de choses d'Argentine. D'abord, l'amour de ce pays, ma famille, parce que j'ai mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins. Et puis, le soleil, l'amour de la famille, l'amour des voyages, puisque j'ai toujours envie de voyager, de... Certainement, quand on quitte un pays comme ça, on n'a pas peur non plus de voyager. Moi, j'aime beaucoup voyager, aller vers l'inconnu. La langue aussi, que je transmets à mes enfants, qui me permet de voyager, parce qu'entre l'espagnol, l'anglais, le français, on voyage un peu partout, à part en Asie. Et puis le barbecue, le chimichurri. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le tango, Astor Piazzolla. Marquez, la littérature, enfin, j'ai plein de choses, la poésie. Oh, je crois que j'ai beaucoup de choses d'Argentin.
Merci beaucoup, Bérénice Bejo.
Il n'y a pas de quoi.
Voilà, l'actrice Bérénice Bejo qui sera à l'affiche de L'Homme de la Cave en salle le 13 octobre.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
6h23, dans un instant, on part en balade dans l'Allier, puis dans les Alpes, de la musique tout de suite. Le groupe Ace of Base sur Europe 1. Bon réveil à tous.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Les balades du dimanche avec Vanessa Zin et Marion Sauveur. Bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Alors, on part d'abord avec vous, Vanessa, dans l'Allier ce matin pour une séquence nostalgie avec un événement qui va avoir lieu le week-end prochain. J'ai envie de dire quoi? En voiture, Simone?
Bah oui, en voiture, Vanessa. Tous en voiture. En fait, on va
On va prendre l'air, mais dans un embouteillage. Mais un embouteillage qui va nous faire du bien. Je vous emmène dans l'embouteillage de La Palisse, donc dans l'Allier, comme vous avez dit, Thierry, sur la Nationale 7. Nationale 7, évidemment, la route mythique des vacances.
Exact.
La route du soleil, qui emmenait tous les Français vers le midi et qui a connu son âge d'or dans les années 50-60. Mmh. On était en plein dans la naissance du tourisme populaire, mais évidemment, ça créait bien des embouteillages.
Bon, revenons à nos moutons. C'est quoi cet embouteillage, alors?
Eh bien, figurez-vous, c'est une fête. Une fête qui existe depuis 15 ans maintenant, qui a lieu tous les deux ans depuis 2006. Alors pourquoi 2006? Parce qu'en 2006, il a été décidé de dévier cette nationale de ce petit village qui était engorgé par 3000 camions par jour. Et les habitants ont décidé de fêter ça en créant le dernier embouteillage. Une grande fête de la déviation. Et puis ça a eu tellement de succès que ça perdure.
Concrètement, ça ressemble à quoi alors?
Et c'est un road trip vintage des années 50. 60, alors qu'il reconstituait dans les moindres détails 800 voitures rétro. Des collectionneurs de 6 pays viennent quand même, parce que les Belges aussi passaient par cette Nationale 7, par exemple. Des galeries chargées de bagages, des accessoires de pique-nique, des gendarmes, des pompiers de l'époque, et même des stations-service. Et les voitures donc vont être dispatchées sur 6 villages de départ et vont reconstituer tout au long de la journée cet embouteillage. Un circuit sur 15 km, donc 30 km aller-retour, mais avec des animations. Magali Carton, qui gère cet embouteillage de La Palisse, nous donne le programme.
Allez.
Des concerts rock'n'roll, swing, guinguette aussi, des exposants rétro, un marché de terroir, un camping rétro qui s'installe sur les bords de la rivière Bèbre à La Palisse, une station-service également. La prévention routière d'époque avec nos gendarmes qui est proposée. Beaucoup d'animations qui sont proposées pendant toute cette journée jusqu'en soirée où on est complètement replongé dans les années 50-60 et où on invite même les visiteurs à venir en tenue d'époque.
C'est drôle ça, c'est une super idée.
C'est une bonne idée, j'adore. Quelle tenue d'époque, vous venez comment vous? En gendarme?
Avec la moustache, en gendarme
Un peu à la Louis de Funès. Et alors, il recrée des scénettes aussi. Il faut s'immerger, c'est assez génial.
C'est le week-end prochain ça. Et si on veut dormir autour de ce grand embouteillage, on fait quoi?
On reste dans l'ambiance rétro, vintage à La Passagère.
D'accord.
C'était l'ancienne manufacture des pastilles Vichy. Et lui, il est collectionneur, notre propriétaire, de voitures. Et il vous permet même, si vous faites de nuit, de les essayer, ces voitures de collection. Voilà.
Super,
et c'est absolument génial parce que toute la décoration est meublée, évidemment, vintage. Il y a des vieux radiophones. On reste dans le thème.
Vanessa, on vous retrouve tout à l'heure avec Isabelle Moreau à 7h20. On passe à table. Marion Sauveur, on part avec vous dans les Alpes.
Mais oui, on va déguster un fromage, mais pas n'importe quel fromage. Le Beaufort, fromage à pâte pressée cuite, au lait cru et entier de vache. C'est donc la spécialité du Beaufortin. Et aujourd'hui, je vous parle du Beaufort Chalet d'Alpage, un fromage d'exception fabriqué avec le lait des vaches qui pâturent au-dessus de 1500 mètres d'altitude pendant 4 mois, de juin à octobre. Il reste encore quelques jours à ces vaches pour bénéficier de cette flore exceptionnelle à cette altitude. Et les premières ont déjà commencé à redescendre tout doucement.
Et c'est ce qu'on appelle le fameux Beaufort d'été, c'est ça?
Non, pas du tout. Chalet d'Alpage, il est réalisé avec le lait d'un seul troupeau de vaches, deux fois par jour après chaque traite. Le Beaufort d'été, il est fabriqué sur la même période, mais avec le lait de plusieurs troupeaux. Il est mélangé par les coopératives. Et les vaches n'ont pas besoin de grimper si haut, au-dessus de 1500 mètres en altitude. Le Beaufort Chalet d'Alpage, c'est un produit rare. Il est fabriqué que par 17 fromagers. Ils partent vivre dans les montagnes pendant 4 mois.
Je peux goûter ou pas?
Bien sûr.
Moi, je goûte, hein, déjà.
Des solitaires comme Adrien Léger. À 22 ans, c'était son deuxième été dans les Alpages. Il s'est installé comme fromager au col de la Bâtie, dans la vallée de la Tarentaise. Il vient de redescendre vers la civilisation hier.
C'est chelou.
Là-haut, dans sa fromagerie spartiate, il a fabriqué pendant 4 mois des Beaufort, avec donc les méthodes ancestrales.
On écoute Adrien.
Le décaillage, par exemple, il se fait de manière traditionnelle avec un tranche-caillier à la main. Et le soutirage, donc, quand le fromage est quasiment terminé en cuve, pour aller le chercher, on va utiliser une baguette en inox et puis une toile de lin. On plonge dans la cuve pour aller chercher le fromage. Dans des gros ateliers, cette étape-là, elle est mécanisée avec, par exemple, un petit soutirage sous vide.
Vous portez véritablement ce fromage, c'est très lourd.
Ça. Vu qu'il y a encore pas mal de petits laits, on est presque à 50 kilos, je pense. En plus, le petit lait, pour la fabrication du Beaufort, vu que c'est une pâte pressée cuite, il est à 54 degrés. Donc, c'est vrai que c'est... c'est assez sport, ce moment-là.
Mmh. J'adore quand vous venez, Marion, parce qu'on déguste comme ça.
C'est le Beaufort donc, de l'été dernier, puisqu'il faut encore attendre un petit peu pour déguster celui de cette année.
Et pourquoi pas un Beaufort cette année, alors?
Eh bien, il faut compter 5 mois d'affinage pour le Beaufort. Donc, 8 à 12 mois, c'est le meilleur moment pour l'affinage. Donc, il faut attendre
c'est
le
mois
d'avril. Ouais, pleine, c'est pas poli, mais juste un petit conseil cuisine, qu'est-ce qu'on fait avec?
Alors, le Beaufort Chalet d'Alpage, c'est mieux d'avoir quand même sur son plateau de fromage.
Un
c'est
bon
un Beaufort. Voilà.
Un petit verre de vin.
Beaufort d'exception. Si vous voulez vraiment le cuisiner, gardez quand même le goût du fromage. Moi, je vous propose une brouillade d'œufs, par exemple.
Oui, c'est facile. Moi,
c'est
facile.
Moi aussi.
Vos œufs dans la casserole avec un petit peu de crème. Ouais. Vous rajoutez après la ciboulette, le Beaufort râpé. Vous faites sauter quelques champignons après votre balade forestière du dimanche. Et puis, il n'y a plus qu'à déguster un plat d'automne parfait.
Ben oui. Merci beaucoup, Marion.
Pardonnez-moi.
On retrouve tout sur europe1.fr.
Oui.
On se souhaite un bon week-end. Ouais. Je vous embrasse et puis on se dit au week-end prochain.
Et bah, week-end
prochain.
Et vive le Beaufort.
Oui, les croûtes de Beaufort.
Europe Matin Week-end. Thierry Dagiral.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Voici toute l'information à 6h30 avec Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Les fans de Paris-Roubaix attendent depuis 2 ans et demi. Les camping-cars sont sortis sur les routes du Nord. Reportage dans un instant. Et Christian Prudhomme, patron de la course, qui sera votre invité d'ici un petit quart d'heure.
Il y a un an, Alex ravageait les Alpes-Maritimes. On verra comment la solidarité a opéré pour aider les sinistrés.
Les primaires, à quoi ça sert? On en parle dans la prochaine demi-heure, puisque juste après ce journal, la une du JDD qui se pose la question. Alors qu'Éric Zemmour, lui, ne se pose pas justement la question, nous avons rencontré ses nouveaux sympathisants.
La tendance météo, c'est important ce matin. Valérie Darmon.
Eh bien, plus de rouge sur la carte des alertes. La situation se calme en Loire-Atlantique qui rejoint en orange les 22 départements déjà en orange pluie inondation du Morbihan à l'Oise et du Gard au Rhône. Parallèlement, le vent qui souffle entre 70 et 90 km/h entre Rhône et Saône et jusqu'à 110 en montagne.
Un point complet dans 7 minutes. C'est la reine des classiques. Elle n'a pas eu lieu depuis 2 ans et demi à cause de la pandémie, bien sûr. Paris-Roubaix, c'est aujourd'hui.
Oui, l'enfer des pavés est de retour, nous dit ce matin la Voix du Nord, qui nous indique les meilleurs coins pour voir passer le peloton. Certains n'ont pas attendu ses conseils et sont déjà installés depuis quelques jours le long du parcours. C'est un peu comme dans les cols du Tour de France. Il faut être aux avant-postes. Reportage de Lionel Gougelot.
Sur l'aire de stationnement, à l'entrée du secteur 8, les pavés du Moulin de Vertin, c'est l'heure de l'apéro. Au milieu des camping-cars, certains spectateurs belges sont là depuis 5 jours.
On vient chaque année ici, c'est déjà 5 ou 6 fois qu'on est ici, au Moulin de Vertin. On vient ici pour le spectacle.
Ambiance camping à la bonne franquette, 5 jours d'attente, oui, mais la passion du Paris-Roubaix avant tout.
Mais on aime le vélo ou on n'aime pas.
Oui, hein, notre passion, c'est le vélo. Donc, ça ne nous gêne pas d'attendre 5 jours pour voir passer la course.
Et pour cause, ils seront au plus près des coureurs dans ces derniers kilomètres de course, la garantie d'être aux premières loges de l'enfer du Nord.
Ouais, et puis apprécier l'effort, parce que c'est des gens qu'on respecte beaucoup, les cyclistes. Ils font beaucoup d'efforts, beaucoup de courage. Ils prennent beaucoup de risques. Hein.
D'ailleurs, avec son VTT, Claudine les a testés, ses pavés, ces derniers jours. Et cela n'a fait que renforcer son admiration pour les forçats de la route.
Ça se coule, les bras, je ne sais pas comment ils font. Mais c'est l'horreur. Et en plus, avec le mauvais temps, comment ils vont faire?
Maintenant, plus que quelques heures de patience avant l'instant tant attendu, c'est quelques secondes de grand frisson au moment de voir passer les héros de la reine des classiques. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et départ de la course, 11h de Compiègne. Le peloton est attendu aux alentours de 17h30 à Roubaix. Hier, la première édition féminine a été remportée par la Britannique Elizabeth Denyon. Christian Prudhomme, le patron de la course, sera sur Europe 1 dans un petit quart d'heure.
Le temps, on en parlait, c'est la Loire-Atlantique qui a le plus souffert cette nuit.
Oui, même si le département vient de repasser en vigilance orange, le pire a sans doute été évité, mais en début de nuit, c'est bien simple, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie.
Dans une moindre mesure, bien sûr, ceci n'est pas sans rappeler la tempête Alex qui avait ravagé le sud il y a pile un an.
Oui, c'était dans la nuit du 2 au 3 octobre, dans les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée, des dégâts monstrueux, des villages défigurés et une population qui a dû se serrer les coudes. Associations, tombola, gros bras, tout a été mis en œuvre. Écoutez le reportage de notre correspondant Frédéric Michel.
Et dans les premières heures et premiers jours de la catastrophe, ce sont les sinistrés eux-mêmes et les habitants des vallées qui se sont montrés solidaires. On s'est aidé entre proches, voisins, amis, les agents communaux, les pompiers ont multiplié les services et au prieuré de Saint-Dalmas, ce sont les 76 personnes handicapées du service d'aide par le travail qui se sont retroussées les manches. Augustine est la maman d'un pensionnaire.
Les employés et les handicapés ont déblayé la boue. Il y avait la distribution alimentaire pour le village, ils faisaient à manger pour le village.
Aujourd'hui, la solidarité prend d'autres formes. forme. Cette randonneuse lilloise est venue dans la Haute-Vallée de la Roya avec deux de ses amis.
On n'a pas imaginé, même en voyant la télévision, la détresse de ce que les gens ont pu supporter pendant tous ces mois. Puis en plus, on essaye de faire fonctionner l'économie. Ça ne peut être qu'un plus pour les gens qui habitent ici.
Et malgré la catastrophe, la saison touristique n'a pas été si mauvaise. Jean-Pierre Vassallo, le maire de Tende.
60 000 personnes ont utilisé le train des merveilles grâce à la région qui a mis la gratuité sur ce train. Mais ces personnes, elles ont amené de la vie dans la commune. Elles ont fait travailler les restaurants et c'est le plus beau signe de vie qu'on puisse donner.
Une aide nécessaire pour espérer dans cette vallée des merveilles tourner la page, même si les habitants resteront à jamais marqués.
Le reportage de Frédéric Michel pour Europe 1.
Des séances de dédicaces qui ressemblent de plus en plus à des meetings. Éric Zemmour a fait le plein hier à Lille.
1600 personnes pour venir voir celui qui se positionne désormais sur la troisième marche du podium. Ascension fulgurante qui est due au siphonnage des électeurs de Marine Le Pen, mais pas seulement. Parmi les lecteurs et peut-être de futurs électeurs, beaucoup d'anciens militants de Debout la France ou encore d'ex-fillonistes. Maximilien Carlier les a rencontrés hier à Lille.
Marine Le Pen est plus que l'ombre d'elle-même. Voilà, elle fait du Macron, elle fait tout ça. Bon, voilà, elle n'est plus sur le même registre, quoi. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour une fois qu'il y en a un qui parle vrai et qui est capable de faire certaines choses que d'autres n'osent même pas évoquer, eh ben, c'est clair que ces gens se retrouvent en lui. Et nous, on fait partie de ces gens-là.
Le problème des Républicains aujourd'hui, c'est que de base, c'est un parti libéral-conservateur qui aujourd'hui fait le choix de devenir uniquement un parti libéral et donc uniquement centré sur des questions économiques. Et c'est ça aussi qu'on leur reproche, c'est de ne pas prendre les problèmes en face. Certes, l'économie, c'est important, mais on a aussi effectivement toutes ces questions d'identité que les Républicains ne prennent plus en compte. Les Républicains, c'est devenu aujourd'hui un parti qui est mou, qui ne fait plus envier les jeunes.
J'ai voté en faveur de Fillon, mais je me repens d'avoir voté Fillon puisqu'il s'est empressé d'appeler à voter Macron. Là, il m'a tout de suite déçu, vous pouvez s'abstenir. Je comprends pas, si c'est un homme de conviction, vous pouvez pas appeler à voter pour Macron, vous voyez. Et Éric Zemmour dit son fait à la droite, mais il peut dire son fait aussi à Fillon, par exemple.
Une parole de sympathisant d'Éric Zemmour avec Maximilien Carlier. Yannick Jadot, lui, dévoile son programme ce matin dans le JDD, sortie de l'élevage industriel et du nucléaire, fin des ventes de véhicules diesel ou essence dès 2030. Un nouveau samedi de mobilisation pour les antipas sanitaire hier, le 12e d'affilée depuis le début de la contestation. 48 000 personnes ont défilé partout en France, 5300 à Paris.
Les Nike, la culture à présent avec cette exposition, enfin le cinéma.
Oui, parce que le 7e art, c'est aussi de la science. Mais alors, comment l'image est-elle devenue un spectacle? Démonstration avec Marie Jiquel qui a visité l'expo pour Europe 1.
Au début du 7e art, la fiction attirait moins l'œil de la caméra que la vie réelle et scientifique.
Le 19e siècle, c'est vraiment le siècle de la science.
Paul Perrin, le commissaire de l'exposition, enfin le cinéma.
Et on a dès 1900 des premiers films qui enregistrent en fait des vues au microscope. Donc ça, c'est vraiment c'est assez fascinant à voir aujourd'hui.
Des globules qui s'agitent, des épisodes historiques ou le corps humain en mouvement. Voici ce que captaient les frères Lumière, Gaumont et Pathé durant les 10 premières années de l'histoire du cinéma.
On a des cinématographistes qui ont posé leur appareil cinématographique dans la rue, au milieu des boulevards de Paris, et qui enregistrent le mouvement des fiacres, des omnibus, des passants, place de la Concorde, par exemple. Et on met en relation ces images-là avec la même façon, en fait, dont les peintres ont représenté ces sujets.
Andrea, une visiteuse, a surtout été émue par les films d'un autre réalisateur.
Moi, Georges Méliès, c'est splendide ce qu'il fait. Enfin, c'est hyper impressionnant de voir les débuts du cinéma.
Le musée d'Orsay, lieu hautement cinématographique, clôt cette exposition par une séance de cinéma, évidemment muet.
Voilà, et vous avez jusqu'au 16 janvier pour courir voir cette exposition. D'un mot, le foot et la victoire de Nice 2-1 face à Brest qui place les Aiglons à la troisième place de la Ligue 1 devant l'OM qui jouera à Lille cet après-midi. Le PSG sera à Rennes. Le match de clôture de la 9e journée, c'est le derby Saint-Etienne Olympique Lyonnais sur Europe 1, bien sûr.
Avec l'ami Lionel Rousseau, bien sûr. Merci beaucoup Lénaïque Monnier. Le temps tout de suite.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur. Au Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien? Les Seychelles vous présentent la météo.
Valérie Darmon, 22 départements, toujours en vigilance orange, inondation, pluie. Hein.
Effectivement, c'est un temps à aller au cinéma ou au musée, particulièrement avec cette perturbation pluvieuse qui glisse vers l'est hein, pour s'étendre à la mi-journée des Pyrénées-Atlantiques à la Lorraine, qui rentre en conflit avec la remontée d'une masse d'air chaud et instable venant de Méditerranée, ce qui donne des pluies orageuses intenses entre les Cévennes gardoises, l'est de l'Auvergne, le Lyonnais, la Franche-Comté et des intempéries près de la vallée
vallée du Rhône avec de probables inondations. Il pleut déjà ce matin de la Vendée, des Charentes à la frontière belge et ensuite de façon plus soutenue et orageuse du sud de l'Aquitaine aux Ardennes. Et puis enfin, ce sera les régions de l'Est et du Centre ainsi que la vallée du Rhône qui vont être impactées. Les cumuls qui s'annoncent à nouveau conséquents. Un fort vent de sud qui s'ajoute aux intempéries sur l'Est de la France, du pourtour méditerranéen aux Ardennes. Il va atteindre 90 km/h en général et ponctuellement jusqu'à 110. Sur le quart nord-ouest, vous allez retrouver de très belles éclaircies dès ce matin. Toujours quelques ondes côtières, ces éclaircies qui vont gagner du terrain au fil de la journée. La neige qui arrive aussi dans les Pyrénées, dès 1800 mètres ce soir. Et déjà, effectivement. Et sur le golfe du Lion, la mer qui va être assez agitée avec des vagues jusqu'à 2,50 m, voire 3 m. Voilà le programme.
Valérie, on regarde les températures, elles baissent encore ?
Elles baissent. Il ne fera pas bas, forcément, avec le passage de la pluie, des perturbations qui se succèdent. Pas plus de 15 à 18 degrés sur le nord-ouest, 19 à 23 sur la majeure partie de la France et jusqu'à 27, toujours quand même, des frontières de l'Est au pourtour méditerranéen.
7h20, merci beaucoup Valérie Darmon. Allez, à suivre l'édito politique de David Rouault-Dallone. Pourquoi les primaires n'ont plus la cote? Et puis, on parle bien sûr du Paris-Roubaix ce matin à 7h15 avec son patron, Christian Prudhomme. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et voici l'édito de ce dimanche matin avec David Rouault-Dallone, rédacteur en chef politique du JDD. Bonjour David.
Bonjour Thierry.
Ce matin, vous vous intéressez au sort des primaires, ces élections internes très en vogue il y a peu. Mais aujourd'hui, on l'a vu notamment à droite, hein, totalement disparu de notre vie politique, ou presque.
Et oui, que sont les primaires devenues? Souvenez-vous, il y a quelques années seulement, c'était le remède absolu, la martingale ultime, la recette miracle. Cette tradition importée des États-Unis devait revivifier la démocratie, faire revenir les électeurs déçus et lassés vers les urnes et surtout permettre aux grands partis de désigner le meilleur des candidats pour la mère de toutes les batailles électorales, la présidentielle. Que le meilleur gagne, désigné par les sympathisants, le champion de la droite ou de la gauche devait être propulsé par la dynamique de plusieurs millions de participants, après s'être soumis à l'épreuve de ses concurrents internes et donc, dans la véritable campagne présidentielle, se révéler compétitif.
David, on le voit donc, les primaires n'ont plus la cote. Que s'est-il passé pour que la tendance s'inverse?
Et oui, aujourd'hui, ça serait plutôt cacher ces primaires que l'on ne saurait plus voir. Au PS, par exemple, au Parti Socialiste, on a le souvenir d'une primaire réussie, celle qui avait désigné François Hollande en 2011, 3 millions de votants et à l'arrivée, une présidentielle gagnée. 5 ans plus tard, en 2016, l'histoire a été très différente. Les militants de gauche ont choisi le plus radical des candidats, Benoît Hamon. Résultat, 6,5% des voix à la présidentielle, le pire résultat de toute l'histoire du PS. À droite, la même année, l'espoir était là, 4 millions de participants. Souvenez-vous, François Fillon désigné, la victoire était assurée, mais c'était compté sans les affaires et l'impossibilité de débrancher justement un candidat légitimement désigné. À l'arrivée, la défaite, là encore. Voilà pourquoi le PS, cette fois-ci, a soigneusement esquivé la primaire et s'apprête à désigner Anne Hidalgo, sans enthousiasme et en petit comité, faute de combattants. Chez les Républicains, c'est le même combat. Le patron du parti, Christian Jacob, a réussi à étouffer le processus de désignation au profit d'un congrès interne qui désignera le candidat de la droite sans tambour ni trompette.
Alors David, il y a quand même une exception à la règle, on va dire, ce sont les écolos, les écologistes.
Et oui, une primaire plutôt réussie, hein, d'ailleurs, chez les écologistes, qui a permis au grand public de découvrir Sandrine Rousseau et ses surprenantes positions écoféministes radicales, et surtout qui a permis de choisir, une fois n'est pas coutume chez les écolos, le candidat le plus crédible, le plus réaliste de tous, Yannick Jadot, qui l'a emporté, même si c'est de justesse à 2 points près. Mais vous l'avez dit, Thierry, c'est l'exception. Dans tous les autres partis, on est désormais vacciné contre ce mode de désignation. La vie politique française ne rentrera plus en primaire. Il y a 5 ou 10 ans, elle constituait la panacée. Elles sont aujourd'hui bel et bien mortes et enterrées.
Merci David. David Rouault-Dallone du JDD.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Europe Matin Weekend.
Thierry Dagiral.
L'interview de 7h15 de ce dimanche matin, on va parler de la 118e édition du Paris-Roubaix avec son directeur également du Tour de France, bien sûr. Bonjour Christian Prudhomme.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Hein. Le Paris-Roubaix qui part dans, allez, un peu plus de 4 heures de Compiègne. Enfin, vous dites, il est de retour.
Oui, enfin, bien sûr, puisque 903 jours se sont passés depuis la dernière édition.
Ouais.
Avril de 2019, Philippe Gilbert, ancien champion du monde, qui triomphait sur le Vélodrome de Roubaix. Un report, puis une annulation, puis un nouveau report, et enfin ce retour avec un grand week-end. Et donc, enfin, oui, là, c'est le mot qui convient, la 118e édition de l'Arène des Classiques.
Alors, l'Enfer du Nord, exceptionnellement à l'automne, hein, parce que d'habitude, il faut le rappeler, c'est au printemps. La météo sera pas vraiment très très bonne aujourd'hui, hein.
Non, on scrute évidemment au jour le jour depuis une semaine la météo, la pluie que Paris-Roubaix n'a plus reçue depuis 20 ans.
Ouais.
Sera là très vraisemblablement, même si on regarde évidemment tout ça avec une attention très très particulière.
Les coureurs, ils sont impatients, j'imagine, ça y est, ils sont prêts.
Oui, il y a une vraie envie des coureurs d'abord, et c'est le plus important, des fans et de nous aussi organisateurs. Après cette très longue période sans épreuve, vous savez, il y a deux courses dont on vous parle au bout du monde, deux courses cyclistes, c'est le Tour de France et c'est Paris-Roubaix.
Bien sûr.
Paris-Roubaix, c'est la course des Hauts-de-France, il y a une vraie identification, ça part de Picardie, de Compiègne, ça va dans le Nord, il y a les ch'tis, il y a les géants au bord de la route, et il y a évidemment les champions, et puis il y a aussi, dans ce calendrier qui a été chamboulé à cause de la pandémie, une vraie chance pour nous, c'est-à-dire une cohérence de calendrier sportif avec le dimanche dernier, évidemment, les championnats du monde dans les Flandres et le Sacre de Julien Alaphilippe.
Ouais.
Paris-Roubaix avec des coureurs du même type, même si le poids plume qui est Alaphilippe n'est pas là aujourd'hui, et avec ensuite Paris-Tours, ses chemins de vigne. Donc une cohérence sportive au mois d'octobre, ça n'est pas à une période classique, mais la cohérence sportive est bien là et c'est tant mieux.
Alors Alaphilippe, vous en parliez à l'instant, champion du monde, il sera pas présent bien sûr sur ce Paris-Roubaix. Pourquoi il a jamais participé à ce Paris-Roubaix?
Parce que c'est un poids plume qui a des ambitions pour les courses qui sont juste derrière, à savoir la Flèche Wallonne, qu'il a gagné 3 fois, et Liège-Bastogne-Liège, où il a fini 2 fois 2e et qui pour l'instant se refuse à lui, qui sont vraiment faites pour son type de coureur, un puncher, et Paris-Roubaix étant juste avant, bien évidemment, il ne peut pas viser les différents objectifs. Maintenant, le poids plume qu'est Julien Alaphilippe a été, il y a 10 ans, vice-champion du monde junior, il y a plus de 10 ans, de cyclocross, donc son sens du pilotage, son adresse pourrait faire qu'un jour, il puisse briller sur Paris-Roubaix, il a très envie d'y participer, ça ne peut pas être le cas là maintenant, il vise le Tour de Lombardie avec son maillot arc-en-ciel dans une semaine, mais on espère bien l'accueillir au départ de Paris-Roubaix dans les années qui viennent, naturellement.
Christian Prudhomme, vous évoquiez il y a quelques secondes le public, justement, on l'a vu hein, la semaine dernière sur les routes de Flandre, il y avait beaucoup de monde. Vous attendez beaucoup de monde sur ce Paris-Roubaix ce matin?
Bah écoutez, il y aura forcément du monde. Alors on est encore dans la pandémie, même si grâce à la vaccination cela va mieux. Pour les coureurs, le système est le même que depuis le début de l'année, donc test PCR négatif bien évidemment 6 jours avant, test PCR 3 jours avant. Pour l'organisation, c'est passe sanitaire et masque pour tout le monde. Quand on approchera sur les lieux de départ ou d'arrivée, c'est aussi le passe sanitaire bien évidemment, et la préfecture avec laquelle nous travaillons bien évidemment, sans laquelle on ne pourrait pas organiser, souhaiterait bien sûr qu'il y ait un maximum de masques au bord du parcours, mais on est à l'air libre, et puis il y a un sentiment aussi de liberté, de profiter de l'instant présent qui est nécessaire. Maintenant, il faut évidemment faire attention dans la vie de tous les jours et ce dimanche aussi, notamment sur les gestes barrières, bien sûr.
Christian Prudhomme, le directeur du Paris-Roubaix, avec nous ce matin sur Europe 1. Quels seront, Christian, les coureurs à suivre aujourd'hui, notamment les Français?
Oui, bien sûr. Alors, du côté des Français, on pense immédiatement au coureur de Cambrai, Florian Sénéchal, qui était juste derrière Julien Alaphilippe dimanche dernier au championnat du monde, dans le groupe qui était derrière Julien Alaphilippe, qui a remporté aussi, Florian Sénéchal, une épreuve il y a peu. Il était 6e de la dernière édition de Paris-Roubaix en 2019. Il a Paris-Roubaix dans le cœur et dans les tripes. Et puis, il y a d'autres coureurs aussi du Nord, notamment Arnaud Démare, bien sûr, le Picard, ou Adrien Petit, l'Arrageois. Il y a Christophe Laporte, qui est brillant dans les classiques de type flandrien. Et puis Anthony Turgis, qui a été très très constant au printemps dans les classiques du Nord et de la Belgique ou des Pays-Bas. Donc ce sont les coureurs sur lesquels on peut compter. Bien évidemment, on s'attend aussi à une sorte de revanche des championnats du monde pour Wout van Aert, le coureur belge qui était le grand favori la semaine dernière, qui a été dominé par Julien Alaphilippe et qui, bien évidemment, souhaite s'imposer face à lui, son éternel rival déjà, bien qu'ils soient jeunes tous les deux, Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor.
Bien sûr.
Raymond Poulidor qui est le recordman des participations à Paris-Roubaix.
Ah, ouais.
Il était 18 fois au départ et comme pour le maillot jaune que son petit-fils Mathieu Van Der Poel est allé quérir en juillet dernier en Bretagne à Landerneau, eh bien sans doute rêve-t-il lui aussi, puisqu'il a été champion du monde à plusieurs reprises de cyclocross, de pouvoir s'imposer dans l'arène des classiques.
Christian, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Français gagner le Paris-Roubaix. La dernière fois c'était quoi, 97
Frédéric Guédon, ouais. Ah, Frédéric Guédon 97. Savez-vous seulement ce que je faisais à ce moment-là? Eh bien, je commentais la course pour Europe 1.
Pour Europe 1,
avec Marc Madiot, qui n'était pas loin, qui est un ancien vainqueur de Paris-Roubaix, bien sûr double vainqueur, patron de Groupama FDJ et ancien consultant.
Mais pourquoi les Français ont du mal là, sur le Paris-Roubaix? Quand est-ce qu'un Français va remporter à nouveau cette course mythique?
C'est ce qu'on peut souhaiter, c'est ce qu'on espère avec Sénéchal notamment. Maintenant, il a face à lui des cadors, clairement, des surdoués, que sont Van Der Poel et Van Aert, qui ont été l'un et l'autre plusieurs fois champions du monde de cyclocross. Et la pluie et le terrain boueux annoncés font qu'ils seront encore plus favorisés, si j'ose dire, parce qu'ils sont incroyablement adroits, parce qu'ils ont un vrai sens de la trajectoire. Ils seront encore favorisés par rapport aux autres et par rapport à un temps sec. Et
Christian, rapidement, samedi, hier, c'était le Paris-Roubaix féminin. Il y aura aussi un Tour de France féminin l'été prochain. Ça y est, le cyclisme devient féminin.
Ben, je crois qu'on est rentré dans un cercle vertueux où les gens, qu'il s'agisse d'élus ou de partenaires, joignent désormais les actes à la parole et sont vraiment là en soutien derrière les épreuves. Ça me paraît indispensable. Paris-Roubaix féminin, le Tour de France femmes qui sera dévoilé le 14 octobre en même temps que le parcours du Tour. Avec des équipes qui se professionnalisent, avec des équipes qui ont des championnes qui aspirent à une seule chose, c'est être connues. Les courses existent, même s'il y a des nouvelles courses qui arrivent, mais l'aspect communication est au moins aussi important. Et donc on est ravis de participer à ce mouvement. Nous parlons aux gens au bout du monde, aux Australiens, aux Colombiens, aux Américains qui regardent les courses. Il y avait une sorte d'incongruité à ne pas parler à celles qui sont à côté de nous. Donc on veut leur parler, on veut que les petites gamines puissent rêver d'être championnes, comme les gamins peuvent rêver d'être des champions. Donc voilà, c'est vraiment pour nous indispensable. Et je crois vraiment qu'on est rentré dans ce cercle vertueux et je m'en réjouis.
Christian Prudhomme, le directeur bien sûr de Paris-Roubaix, qui part ce matin à 11h de Compiègne, qu'on va suivre bien sûr avec Axel May sur l'antenne d'Europe 1. Bonne course à vous, merci Christian, merci à vous.
Merci.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.